Les chevaux de bois. Pourquoi les Français, et surtout les Parisiens, sont-ils si amateurs des chevaux de bois? Tout le monde sait ce qu'on appelle ainsi. Tout le monde a vu cette minuscule cavalerie, suspendue au bord d'un immense parapluie, dont le manche est un poteau qu'un cheval aveugle, et vivant celui-là, fait tourner. Quelquefois, c'est un homme qui fait l'office de cheval aveugle. Mais l'accompagnement indispensable, et sans lequel cet exercice n'aurait plus de charme, c'est un orgue de barbarie, un orgue au son criard et exaspérant, qui sont au tympan ce que le casse-poitrine est à l'estomac. On trouve des chevaux de bois partout, tout au bout du faubourg Saint-Antoine, quand se tient la foire au pain d'épices, et toute l'année sur l'aristocratique avenue des Champs-Élysées. Il n'y a pas de commune reculée où les chevaux de bois n'aillent porter leur fanfare deux ou trois fois par année, en l'honneur de Sainte-Gudule ou de Saint-Pantaléon ou de tel autre patron de la localité. Le progrès qui s'affirme en toute chose s'est occupé même des chevaux de bois. Au quinquet fumeux que nous avons tous connu dans notre enfance, ont succédé les aveuglantes clartés du gaz, voire de la lumière électrique. Les bons petits chevaux de jadis, dont la queue et la crinière étaient en vrai crin, sont remplacés souvent par des bêtes invraisemblables. Sirènes et naïades, mastodontes et sauriens, atteste le développement des sciences naturelles et surnaturelles en cette fin de siècle. Mais quelle que soit leur espèce, tous ces animaux ont même allure et même mugissement. Les cavaliers et les amazones ne manquent jamais. Des jeunes gens enfourchent leur dada derrière des petits garçons et l'on voit des demoiselles qui ont passé depuis longtemps l'âge des poupées se mettre en selle allègrement. Parfois même les anciens ne dédaignent pas de prendre part à l'équipée. En route, la monture aérienne se met doucement en marche. Elle ne vole ni ne rampe ni ne trotte, elle glisse sans secousse et sans heurts, si bien qu'on pourrait, en fermant les yeux, se croire porté sur l'aile des fées, si l'odeur des beignets frits et le bruit strident des orgues ne vous rappelaient que vous êtes encore ici-bas. Bientôt l'allure est si rapide que les quatre points cardinaux semblent en démence. Tout se mêle et se brouille. La griserie de mouvement s'empare des cavaliers qui se surprennent à battre leur monture pour la faire aller plus vite, comme si elle n'était pas de bois. Mais le sifflet retentit, c'est fini, tout s'arrête par magie, comme un escadron bien dressé, en voilà pour 10 centimes, et chacun remet pied à terre, les yeux pleins de vertige et le cœur de regret. Le Parisien aime les chevaux de bois parce que ses modestes coursiers le mènent au pays du rêve, ce doux pays où ne vont, hélas, ni les omnibus, ni les tramways. Dans sa grande naïveté, l'enfant du peuple recherche le bruit, même discordant, et le mouvement, même inutile, parce qu'il trouve un peu d'illusion au fond de tout cela. Dévoré par une imagination toujours active, l'apprenti parisien irait à la lune s'il en savait le chemin. Il trompe, en attendant ses ardeurs, en enfourchant les chevaux de bois. Il n'y a pas grand mal à cela, et je ne ferai qu'en rire si l'amour des chevaux de bois ne se retrouvait en toute chose. Malheureusement, ce n'est pas seulement à la foire qu'on se contente de l'illusion au lieu de la réalité. On se lève, on déjeune, on court à l'atelier, au bureau, à la bourse, on s'arrête une heure et l'on recommence jusqu'au soir. La journée est finie, on se couche pour recommencer le lendemain. Et cela sans trêve ni répit. La machine tourne, tourne, jamais assez vite au gré des hommes impatients. N'est-ce pas là, chers auditeurs, une manière de jouer aux chevaux de bois? Se retrouver tous les jours au même point que la veille, gagner de l'argent pour le dépenser, puis en gagner encore, manger, boire, dormir, aller au théâtre et à l'église, selon le jour et l'heure, écrire des lettres et en recevoir, qu'on jette après les avoir lues. Est-ce que tout cela n'est pas une illusion, un mirage, une vanité? À quoi tout cela doit-il aboutir? Voilà la question qu'on devrait se poser sans cesse et qu'on ne se pose jamais. Les chevaux de bois ne mènent à rien. Et la vie des gens du monde, où donc les mène-t-elle? À ce redoutable inconnu qui s'appelle la mort. Il y a dans ce monde une phalange d'hommes sages qui marchent plus lentement que les autres, peut-être, car ils ne sont point portés par l'espérance factice, mais qui marchent vers un but. Leur route n'est pas circulaire, elle est droite, toute droite. Aucune étape du chemin ne ressemble à la précédente. Leur vie est issue d'épreuves et de délivrances, d'actions vaillantes et utiles à leurs semblables. Ils n'ont qu'un mot d'ordre, servir Dieu dans l'humanité. Ils n'ont qu'un but, la perfection. Et pour l'atteindre, ils n'ont qu'un guide, Jésus-Christ. Leur vie, en apparence sacrifiée, est féconde. Ils ne sont point emportés au hasard des destinées. Ils sont conduits par une intelligence souveraine, par un amour suprême, par Dieu lui-même qui, par degrés, les attire à lui. Quand ils meurent, on n'a pas l'impression d'un édifice écroulé, d'une colonne brisée, d'une œuvre détruite, mais au contraire, d'un édifice achevé, d'une œuvre qui durera longtemps après eux. Ce qu'ils ont semé germera et fructifiera de siècle en siècle. Et s'ils ont vu venir leur fin, ils ont pu dire en mourant comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, juste juge, me la donnera. » Auditeur, ne voulez-vous pas vous enrôler dans cette phalange-là ?